le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue sur France Culture pour le service protestant. À l'occasion des rediffusions que nous vous proposons en ce mois d'août, je vous propose ce matin de réentendre le pasteur James Woody de l'Église protestante unie de France à Montpellier. Une émission qui avait été diffusée le 21 septembre 2014 et pendant laquelle notamment le pasteur James Woody nous proposait une réflexion autour de la parabole dite des ouvriers de la 11e heure.
Nous allons ouvrir la Bible pour y entendre des paroles qui nous aident à rendre notre vie plus compréhensible, plus intéressante, plus belle aussi. Et puis, à côté de la Bible, le patrimoine protestant a quelques petites merveilles qui nourrissent la vie spirituelle, notamment les psaumes, mis en musique au temps de la Réforme. Et c'est par l'un de ces chants, le psaume 95, que je vous propose de commencer ce temps de culte. Le chant des psaumes est un classique dans les églises protestantes, à la fois parce que c'est une manière de prier en utilisant un texte biblique, et ça c'est très protestant, et aussi parce que tous les psaumes ont ceci en commun, qu'ils commencent par une note longue, une blanche, qui vaut deux temps. Commencer par une note plus longue, c'est permettre de réunir tout le monde dès la première note. Avec un vocabulaire religieux, je dirais que c'est une manière de créer une communion entre ceux qui écoutent ou chantent ce psaume. Nous pouvons maintenant entrer dans cette prière chantée du psaume 95. Vous l'aurez compris, le culte sert à se présenter devant Dieu. Que l'on aille au culte dans un temple ou que l'on vive un temps de culte chez soi, à l'écoute de la radio, on n'est plus tout seul. On n'est plus seulement occupé par ses pensées, par ses soucis. Dire, comme nous venons de le faire, « Réjouissons-nous au Seigneur », par exemple, c'est considérer que je ne suis pas seul au monde. C'est aussi se tenir devant plus grand que soi, plus vaste que soi. C'est se relier à l'universel. La Bible nous aide considérablement pour cela, car elle est un véritable patrimoine de l'humanité. Non pas seulement une belle œuvre qui est lue à travers la planète, mais un recueil de textes de plusieurs époques, écrits par de nombreuses personnes, qui nous aide à mieux comprendre ce qu'est l'humanité, ce que peut bien signifier être humain. Les chrétiens lisent les textes de la Bible pour mieux penser la vie, pour éclairer les décisions à prendre, justement parce que la Bible rassemble l'expérience d'hommes et de femmes sur des centaines d'années et dans des situations très variées. La Bible est effectivement un patrimoine de l'humanité qui se cherche, qui s'interroge, qui se découvre, qui se révèle, et c'est un patrimoine qui nous aide à devenir nous-mêmes plus humains. Alors pour entrer dans le texte biblique qui va nourrir notre méditation, je vous propose un temps de prière pour bien nous disposer à écouter et comprendre ce qui est écrit. Écoutez, c'est être à l'affût du cri du cœur et de celui de l'âme, là où Dieu nous parle. Écouter, c'est être un veilleur, attendant que surgisse au détour d'une page, d'une ligne, d'un mot des Écritures ou aux jointures de l'âme, l'indicible et l'ineffable. Et c'est ainsi que nous voulons écouter. Nous voulons que résonne en nous ce qui jamais ne peut être saisi, ce qui toujours nous échappe, la parole de Dieu, cette parole que nous allons maintenant découvrir en ouvrant les Écritures. Amen. La nature est très présente dans les textes bibliques. D'ailleurs, certains disent qu'ils ont du mal à comprendre la Bible parce qu'elle utilise beaucoup d'images de la nature, des champs, images auxquelles nous ne sommes plus habitués lorsque nous vivons en ville. Mais la nature est une belle école qui, aujourd'hui encore, a des choses à nous apprendre. Le petit bout de nature que nous allons découvrir maintenant est une vigne. La vigne revient régulièrement tout au long de la Bible, depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, et elle représente le plus souvent le peuple de Dieu. Le passage qui parle de la vigne, que nous allons lire maintenant, se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. C'est au chapitre 20, et je vais vous lire les versets 1 à 16 du chapitre 20 de l'Évangile selon Matthieu. « Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place, sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, » leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, « je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. En règle générale, ceux qui lisent cette histoire biblique sont choqués parce que ceux qui ont travaillé 12 heures gagnent la même somme d'argent que ceux qui n'ont travaillé qu'une seule heure. Et l'idée de travailler plus pour gagner la même chose a rarement la cote. Donc, la plupart des lecteurs de cette parabole vont tout de suite dire que Dieu est un mauvais patron ou alors que ce texte n'est pas un traité d'économie, mais qu'il parle de la foi, du salut, de la religion, et certainement pas de la bonne manière de gérer une entreprise. Soit. Ce texte parle de choses spirituelles. Nous sommes d'accord. Mais si nous trouvons que la manière dont ces personnes sont payées est proprement scandaleuse, alors il serait bon de s'interroger sur nos propres modes de rémunération aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas une seule entreprise, du moins à ma connaissance, où tous ceux qui travaillent le même nombre d'heures gagnent la même somme d'argent. Entre ceux qui sont au SMIC et ceux qui sont agents de maîtrise au dernier échelon, après 35 heures hebdomadaires, ils n'auront pas du tout le même salaire. Ou, pour le dire autrement, si le SMICard travaille à temps plein, alors que celui qui est en haut de la grille de salaire travaille à temps partiel, voire très partiel, ils auront au bout du compte le même salaire. Donc, si nous râlons contre le patron de la vigne, il faut aussi râler contre notre propre système. À vous de voir. Bon, je vous vois venir, vous allez me dire que dans une entreprise, les écarts de salaire tiennent compte de l'ancienneté et surtout de la formation et donc du degré de qualification du salarié. Oui, et alors, qui dit que les ouvriers de la 11e heure ne sont pas plus qualifiés que les autres? Ceci pour dire qu'avant de disqualifier le maître de la vigne, il est utile de s'interroger sur nos propres pratiques. Et si nous trouvons que le maître de la vigne n'est pas juste, nous pouvons toujours en tirer des conséquences à titre personnel. Cette parabole des ouvriers qui vont à la vigne à des heures différentes et qui reçoivent le même salaire n'est pas d'abord le texte de la convention collective du royaume de Dieu, mais un texte qui nous parle du conflit entre deux économies, l'économie financière et l'économie du don, qui est aussi celle de l'amour. Vieux classique, me direz-vous, et vous vous attendez peut-être à ce que je dise le plus grand mal de la finance, voire que je la qualifie d'œuvre du diable. Selon ce texte, la question n'est pas là. Le conflit n'est pas entre le mal et le bien. Ce qui oppose ces deux économies peut s'exprimer très simplement de la manière suivante. L'économie financière se fonde sur une logique de l'équivalence, alors que l'économie du don se fonde sur une logique du don. D'un côté, le donnant-donnant, je fais quelque chose et j'ai autre chose en retour, j'ai un retour sur investissement. De l'autre côté, le don, sans espoir de retour, sans calcul. Le maître de la vigne se présente comme quelqu'un de bon d'une part, et libre de faire ce qu'il veut de son bien d'autre part. Après tout, qu'est-ce qui l'empêche de donner ce qu'il veut à qui il veut ? Rien d'autre que la logique comptable de certaines personnes qui vont avoir le sentiment de recevoir moins que les autres. Nous y reviendrons. Pour le moment, c'est le geste du maître de la vigne qui m'intéresse, parce qu'il sort de la logique de l'équivalence, du « un prêté pour un rendu ». Le maître de la vigne fait prévaloir la logique du don qui est la logique de l'amour. Cette histoire n'est qu'une histoire pour nous faire réfléchir à la manière dont nous nous comportons avec les personnes qui nous entourent. Cette histoire nous permet d'entendre quelle est la manière de se comporter qui fait surgir le royaume des cieux. Autrement dit, quelle est l'éthique, l'art de vivre qui plaît à Dieu, qui a valeur d'absolu. Il faut bien comprendre qu'un denier est l'équivalent d'un salaire journalier. C'est la raison pour laquelle il est contractualisé que ceux qui sont embauchés à la première heure recevront un denier. Un denier symbolise ce qui est utile pour vivre une journée. Nous pourrions dire que c'est le pain quotidien, le nécessaire pour 24 heures. Cela symbolise aussi bien la part matérielle de la vie que la part non matérielle. Par exemple, le travail que l'on accomplit, nos engagements, nos passions, les vertus qui nous animent, notre spiritualité. Un denier représente la valeur de la vie. Avoir un denier, c'est avoir ce qui permet de vivre. Si nous lisons le texte attentivement, nous constatons que l'intendant paie le salaire, au verset 8. En grec, c'est le verbe « apodidomi » qui est utilisé. Il signifie « rendre »,« restituer ». Nous sommes bien dans la logique de l'échange. En revanche, le maître donne ce qu'il veut au verset 14, comme l'indique le verbe grec « didomi », qui signifie « donner ». Que le maître de la vigne donne un denier à chacun signifie qu'il leur offre ce dont ils ont besoin pour vivre, indépendamment d'une logique comptable ou de la justice que revendiquent certains ouvriers. D'ailleurs, Ce texte fait passer l'amour au-dessus de la justice. Du moins, au-dessus de la justice qui ne sert qu'à sanctionner. Sortons un instant de la vigne et rendons-nous dans un parc où des enfants sont en train de jouer. L'un d'eux monte à un arbre, il glisse, déchire ses vêtements et tombe lourdement en se cognant. Que va faire le parent qui accourt vers lui ? Va-t-il le gronder ou va-t-il prendre soin de lui ? Sortons du parc et allons près d'une route. Un jeune est au volant d'une voiture en compagnie d'amis. Il va manifestement trop vite, il ne ralentit pas suffisamment à l'entrée d'un virage et la voiture sort de la route, percutant un arbre. Tous se retrouvent à l'hôpital, mais sont encore conscients. Que font les parents du conducteur lorsqu'ils arrivent dans sa chambre ? Lui reprochent-ils sa conduite ? Ou se réjouissent-ils qu'il soit encore en vie ? Et vont-ils l'entourer de leur affection ? Si nous ne donnons pas de pierre à nos enfants quand ils ont faim, à plus forte raison, Dieu donne-t-il ce qui est nécessaire pour notre vie, indépendamment des questions de rétribution. Cela pour dire que la logique divine que nous sommes appelés à vivre, c'est d'aimer chacun de telle manière qu'il ait ce dont il a besoin pour pouvoir mener une existence épanouie. Il s'agit de rejoindre l'homme désœuvré, l'homme inutile, celui qui a le sentiment de ne plus être bon à rien, et de lui offrir ce qui lui sera nécessaire pour reprendre sa place dans la communauté humaine, au sein de la vigne. Pour cela, on ne peut pas se contenter de mesurettes, ni d'une logique du donnant-donnant. La logique divine, c'est de raisonner non pas au plus juste, mais au plus épanouissant. La bonté, c'est la surabondance du bien, c'est l'amour en excès, c'est la grâce sans limite. Le maître de la vigne fait preuve d'un amour qui offre autour de lui ce qui est nécessaire pour mener une vie vraiment humaine. J'ai dit que l'amour l'emportait sur la justice. Je voudrais préciser que l'amour dépasse la justice, mais ne supprime pas la justice pour autant. Ce que fait le maître de la vigne, ce que nous sommes appelés à faire, c'est faire mieux que la justice. C'est cela que permet l'amour. Comme il le rappelle, personne n'a reçu moins que ce qui avait été convenu au départ. Personne n'a été lésé par la décision du patron. Toutefois, comme bien souvent, il y a de la jalousie. Les ouvriers de la première heure ont leur plaisir gâché par le fait qu'ils ne reçoivent pas plus que les autres. Et comme ils le disent très bien, les ouvriers de la première heure ne supportent pas d'être traités comme les autres. Cela signifie qu'ils calculent leur bonheur en fonction du bonheur des autres. Cela signifie qu'ils sont d'autant plus heureux qu'il y a, à côté d'eux, des personnes plus malheureuses. Jean-Jacques Rousseau constatait aussi cela dans ses fragments politiques. Il arriva, écrit-il, un temps où le sentiment du bonheur devint relatif et où il fallut regarder les autres pour savoir si l'on était heureux soi-même. Eh bien, voilà une manière d'entrer dans un processus de rivalité qui nous rendra toujours malheureux. Car nous ne cesserons jamais de vérifier que notre voisin est bien plus malheureux que nous, ou moins riche que nous, etc. Il y a une expérience qui consiste à proposer un choix à un individu. Soit il prend une enveloppe avec 1000 euros, et il accepte que 3 autres personnes reçoivent chacune 2000 euros. Soit il prend une enveloppe avec 700 euros, et les 3 autres reçoivent 500 euros chacun. Qu'est-ce qui fait que des personnes préfèrent le second choix ? C'est qu'elles préfèrent être moins riches dans l'absolu, mais plus riches en valeur relative par rapport aux autres. Selon l'analyse d'Adrien Farès, au moment même où nous raisonnons en fonction d'éléments qui n'étaient pas dans l'équation de départ, il faut s'attendre à estimer que le monde est injuste. Au moment même où notre logique est basée sur des concepts marginaux, il faut s'attendre à être déçu et à vivre insatisfait. Il faut s'attendre à être malheureux car nous ne voyons plus le monde comme il est, mais comme il pourrait être s'il était soumis à notre volonté. Dans cette parabole, comme dans la vie, il n'est pas promis que nous aurons plus que les autres. En revanche, il est dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui s'arrange pour que ceux qu'il croise bénéficient de ce qui leur est nécessaire, de manière absolue et non relative. Notre vie est digne du royaume des cieux à chaque fois que nous permettons à quelqu'un d'avoir son pain quotidien, qui n'est pas limité à la question du salaire, des biens matériels, mais qui inclut ces dimensions-là aussi. Notre vie peut être considérée comme heureuse toutes les fois où nous recevons ce qui rend possible notre liberté, notre épanouissement, et que nous ne regardons pas à droite ou à gauche pour vérifier qu'il y a des moins bien lotis que nous. Le royaume des cieux, c'est lorsque notre vie est guidée par l'inconditionné, ce qui n'est pas relatif aux phénomènes de mode, aux comparaisons douteuses. L'inconditionné. L'autre nom de Dieu, selon le théologien Paul Tillich. Cette parabole des ouvriers de la 11e heure offre bien d'autres pistes de réflexion et d'autres motifs de grâce. Mais je retiens celui-ci comme pièce majeure apportée à notre patrimoine. Et je dirais même pièce constitutive de notre patrimoine. La grâce divine, c'est le fait d'être aimé personnellement et inconditionnellement. Qui que tu sois, quelles que soient tes réalisations, tes mérites, tes réussites ou tes échecs, quel que soit le temps que tu as passé sur les bancs d'une église ou d'une école, que tu sois baptisé depuis toujours ou non, tu as droit au bonheur. Tu as ta place dans la vigne. Tu as ta place dans la communauté humaine pour y être heureux et pour augmenter le bonheur de ceux qui y sont avec toi. Et la grâce ultime qui nous est faite, c'est que nous puissions nous réjouir du bonheur des autres et de leur réussite. Amen. Prenons maintenant un moment de prière, un moment pour nous orienter vers le royaume des cieux, pour nous placer face à Dieu, face à l'ultime, pour porter notre vie à son incandescence. Ô Père, nous te remercions de nous adresser ton appel, parce que cet appel donne de la valeur et un sens nouveau à notre vie. Nous te remercions parce que, dans ton projet d'amour pour ce monde, tu nous offres une place où nous pouvons servir, où nous pouvons offrir un denier, le pain quotidien à nos contemporains. Aide-nous à discerner et à comprendre ce qu'il y a à accomplir dans le monde, pour que nous désirions avec ardeur y participer. Que nous sachions faire aujourd'hui ce que nous n'avons pas su faire hier. Montre-nous quelles sont les vraies questions, ce qui devrait être premier. Ton dessein d'accorder à tous les hommes la guérison intérieure et la paix, ce qui est nécessaire pour élever notre existence, pour édifier notre humanité. Nous implorons tout spécialement ton aide pour ceux à qui il semble impossible d'espérer encore quoi que ce soit de la vie. Augmente notre amour, non seulement pour nos frères chrétiens, mais pour notre proche, quel qu'il soit. Fais de nos églises des églises pour les autres. Montre-nous comment vivre une vie plus en harmonie avec ta volonté. En particulier, nous te prions pour tous ceux qui sont brisés dans l'élan de leur vie, pour ces familles terrassées par les meurtres qui se succèdent, ces personnes inconsolables de la violence qui ne recule pas, les victimes de la haine ou de l'indifférence, les victimes de leur propre aveuglement, de leur inconscience. Aide-nous à leur redire qu'il est une place qui ne leur sera pas ôtée. C'est celle qu'ils ont dans ton affection, c'est-à-dire celle qu'ils ont dans ton Église. C'est au nom du Christ, notre vivante espérance, que nous te le demandons. Et c'est avec les mots de Jésus que nous rassemblons toutes nos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes amis, avant de nous quitter, il me reste à vous saluer comme on se salue dans l'Église, en vous offrant le denier d'une parole qui dit du bien, qui fait l'éloge de cette vie à laquelle nous sommes appelés, ce que nous appelons une bénédiction. Cette bénédiction, je la tire du 4e livre de la Bible, le livre des Nombres. Elle nous dit ceci: « L'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. » L'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen.
C'est la fin de ce service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Jean-Luc Gadreau. Dans ses rediffusions estivales, nous avons pu entendre ce matin James Woody, pasteur de l'Église protestante unie de France à Montpellier. À la prise de son en 2014, il y avait Alain Joubert et la réalisation était de Marie Placé, avec aujourd'hui la complicité de Delphine Lemaire pour le montage de cette rediffusion. Vous pouvez nous écrire à Service Protestant, 47 rue Clichy, 75 009 Paris, ou plus simplement encore par email à communication@fédérationprotestante.org. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de franceculture.fr, mais aussi protestant au pluriel.org, où vous pourrez retrouver le texte de l'émission du jour. Enfin, autre possibilité en podcast, sur l'application de votre choix, sous l'intitulé « Service protestant ». Sur France Culture, vous retrouvez maintenant les informations, suivies de l'émission talmudique présentée par Marc-Alain Wachnin. Très belle journée à vous tous.